Oxyform. Oxyform. Tous les mercredis à 17h sur Esprit Occitanie. Sur Esprit Occitanie. Avec Romain Galtier.
Pour cette troisième émission, nous allons parler d'un sport de combat appelé le noblard, mais plus connu comme étant la boxe anglaise. C'est un sport qui a une certaine notoriété, notamment par le cinéma. Mais nous allons parler des bienfaits qu'apporte la pratique de sport de combat ou d'arts martiaux. L'aspect violent qu'inspire ces disciplines freine une bonne partie des curieux qui auraient l'envie de franchir le pas. Pourtant, pour les avoir moi-même pratiqués, j'ai plus souvent eu affaire à des gens respectueux et passionnés. En effet, dans les clubs d'arts martiaux et de sports de combat, les professeurs enseignent des valeurs comme le respect, la patience, l'humilité, la tolérance et bien d'autres valeurs humaines. Les sports de combat permettent aussi de développer la prise de conscience de son corps, la confiance et la maîtrise de soi, l'équilibre et la coordination. La concentration et la réactivité sont également deux valeurs importantes qui sont entretenues par la pratique de ce type d'activité physique. Il y a des aspects bénéfiques pour la remise en forme, car la dépense d'énergie est intense dans les sports de combat. Ce sont des activités très complètes sur les plans physiques. On augmente sa résistance, les efforts fournis dans ces disciplines favorisent le développement musculaire, tout en augmentant la souplesse. Les arts martiaux et sports de combat ont également une puissante dimension technique. Cela nécessite un long apprentissage qui concerne la mémorisation et l'acquisition des techniques. Il y a également une dimension psychologique importante. Il faut savoir s'économiser, d'où l'aspect tactique. L'entraînement dans ces disciplines augmente la combativité. Il permet de se défouler et par conséquent de canaliser l'agressivité. Et pour certains même, une dimension spirituelle. Je pense à la boxe thaïlandaise, qui est presque une religion en Thaïlande. En effet, il y a de fortes traditions. Ces valeurs permettent d'appréhender la maîtrise des émotions, d'acquérir une certaine philosophie et surtout, comme je l'ai dit au début, des valeurs. Le respect de l'adversaire est le facteur prédominant dans les sports de combat et les arts martiaux, ce qui permet un réel développement autant sur le plan physique, moral que philosophique. La pratique de ces sports est propice à l'épanouissement du pratiquant. Mais nous allons nous focaliser sur un sport populaire, la boxe anglaise. Car aujourd'hui, nous avons le plaisir sur Esprit Occitanie de recevoir un boxeur professionnel, un sportif de haut niveau mais également un champion au grand cœur. Notre invité va nous expliquer son parcours et comment il a pu percer dans le noblard. Bonjour Doudou Ngumbu.
Bonjour Romain.
Alors comment allez-vous ?
Ça va très bien Romain.
Alors j'ai vu que vous étiez originaire de Kinshasa en République démocratique du Congo. C'est pas la porte d'à côté.
Oui, c'est vrai que c'est pas à côté. C'est pas à côté, c'est assez loin.
Alors comment ça s'est passé le Congo ? Depuis quand êtes-vous en France et,
Je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. Rejoindre mon père par recommandation pour rejoindre mon père qui était venu en France pour faire sa vie d'homme et notamment dans le sport de haut niveau. Et donc je suis arrivé à 13 ans. À 13 ans, donc je suis arrivé sur la région parisienne où il y avait mon père. Et donc les choses ont allé assez vite et je me suis retrouvé dans le milieu de la boxe anglaise.
Alors, la jeunesse au Congo, ça s'est passé comment ?
Oh, c'était bien, c'était très bien. Très bien, rigolo. Avec une famille recomposée, donc moi j'ai été adopté et plutôt c'était bien.
Donc c'est pour rejoindre votre père que vous êtes venu en France.
C'est ça.
Vous avez suivi ses pas?
Non, j'ai pas suivi ses pas parce que mon père a joué au foot et normalement je devais suivre ses pas, mais je me suis mis à la boxe anglaise.
Donc vous avez préféré les poings aux pieds?
C'est pas que j'ai préféré les poings aux pieds, c'est la vie qui m'a emmené, la vie que j'avais choisie m'a emmené vers ce sport-là.
Et vous auriez aimé être dans le football et continuer les...
J'aurais aimé, mais après, si je ne suis pas footballeur aujourd'hui, c'est que je devais être boxeur.
Ouais, je devais être boxeur. La vie a bien fait les choses.
C'est ça.
J'imagine que ça a dû être compliqué parce que le sport de haut niveau, c'est quand même... Il y a de rudes épreuves pour atteindre l'excellence que vous avez atteinte.
Oui.
Donc comment ça vous est venu cette vocation ?
Ben, déjà, je faisais de la boxe petit, je faisais quand même un peu de boxe au Congo. Donc je faisais du foot comme tous les jeunes africains qui désirent jouer au foot. Et quand je suis arrivé en France, ben, y a eu des situations qui ont fait que j'avais quitté le foyer principal et donc je me suis retrouvé placé. Et là, ben, j'ai demandé. Comme je jouais au foot, là où j'étais, donc les personnes m'ont conseillé d'intégrer un centre de formation ou de me rapprocher d'une ville où j'ai envie d'évoluer et de rentrer dans une centre de formation. Donc j'avais choisi Toulouse. Et ben, tout est parti à partir de là.
Et ça s'est passé comment à Toulouse dans ce milieu ?
Dans le milieu sportif ?
Oui.
Dans le milieu sportif, ben, déjà dans le football, ça ne s'est pas bien passé parce que je me suis pointé comme ça en disant voilà, je veux rentrer dans le centre de formation. Alors qu'il y avait bien une procédure à suivre, des personnes à voir, tout ça. Bon, la personne qui m'a répondu catégoriquement non, parce que voilà, il m'a pris pour une personne qui connaissait pas le circuit et c'est qui était vrai. Donc j'ai dû choisir la boxe pour me restructurer, pour avoir un cadre de vie et avoir vraiment comment dirais-je avoir un objectif qui va me permettre de pouvoir de pas rentrer dans des mauvaises mailles.
Donc en fait, ça vous a permis de garder une direction.
Voilà, voilà,
de garder dans le domaine du sport.
Voilà, voilà, c'est ça. Et aussi du côté humainement parlant, hein, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris le dépassement de soi, surtout ça, le dépassement de soi, parce que c'est quand même c'est un sport où il faut donner de sa personne, il faut donner complètement de sa personne pour pouvoir arriver à faire. Des combats et de dépasser la dimension de prendre un coup.
Et oui, parce que c'est quand même quelque chose qui effraie un bon nombre de personnes avant de prendre le pas de se lancer dans ce genre de discipline.
C'est ça, exactement.
C'est ce qu'on peut parler de violence, parce que c'est quand même, on se prend des coups,
oui.
Mais ce n'est pas que ça.
Ce n'est pas que ça. Pour moi, la boxe, ce n'est pas un sport violent. C'est un sport violent si tu le regardes d'un regard agressif. Mais il faut le prendre comme un sport de vitesse, un sport de rapidité qui permet d'apprendre à éviter les coups et d'en donner. Donc après, la dimension, elle est différente si tu la prends d'une autre manière. En fait, c'est juste un coup à prendre au final. C'est juste un coup à prendre et après en donner. Donc vraiment, c'est vraiment ça, quoi.
Donc les sports de combat, que ça soit la boxe ou les arts martiaux, c'est quelque chose qui élève l'humain en général.
Exactement.
Et autant que le sportif.
Et du côté spirituel surtout. Côté spirituel, parce que tu peux être un super athlète, voilà, tu fais des gestes faciles, mais il y a pour boxer et pour faire des sports de combat, il y a une autre dimension qui rentre en jeu. Une autre chose. Et il faut. C'est le côté spirituel. Je ne te parle pas de Dieu ou Allah, tout ça, parce que moi, c'est pas des choses que j'adhère. J'adhère à une religion, j'adhère à la fonctionnement du respect de l'être humain, du respect de l'environnement, de là où on vit, et aussi de rentrer dans une euphorie spirituelle et de pouvoir. Exécuter des choses qu'on peut pas faire à temps normal.
C'est s'impressionner soi-même, en fait.
Je pense pas que... Pour moi, c'est pas s'impressionner soi-même. C'est plus que ça.
C'est arriver au bout de soi-même et de se rendre compte qu'on peut le faire, en fait.
C'est plus que ça. Si on rentre dans un domaine spirituel, on dépasse le côté soi-même. On cherche autre chose.
Ok, c'est quelque chose de même transcendant
qui
nous dépasse. Exactement.
Le mot, c'est ça. Le mot, c'est transcendant.
Et vous êtes dans quelle catégorie de poids ?
Je boxe dans les 1000 lourds. Je commande dans les 1000 lourds.
Ouais. Donc c'est la limite, elle se situe à 79 kilos.
79, 300 grammes, si je me rappelle bien, parce que il faut faire attention au repas et il faut faire attention tout court, quoi.
Et c'est difficile parce que. On voit souvent, par exemple, le boxeur arriver en slip, se dire « bon, mais il faut que je cours un peu pour perdre encore les 100 grammes qui me restent ». Ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation ?
J'évite. Je préfère faire les sacrifices bien avant, au moins quand j'arrive le jour du combat, même si je suis en dessous du poids, ça ne me pose aucun problème. Mais si je n'aime pas arriver au-dessus du poids.
Et vous avez des mentors ?
Des mentors, oui, j'ai des mentors, des personnes qui m'ont fait aimer ce sport et qui m'ont appris des choses au niveau de ce sport.
Il se situe dans la région d'Occitanie ?
Oui.
Et c'est à Blagnac que vous avez
commencé ? Non, le Blagnac Boxing Club, c'est le club où je suis allé à Blagnac pour apprendre une autre manière de boxer, une autre approche de combat qui est du corps à corps. Les mentors qui m'ont vraiment fasciné, c'est l'entraîneur que j'ai eu au tout début, Jérôme Rey, qui est du Boxing Club Toulousain. C'est lui qui m'a vraiment appris à boxer comme je sais boxer aujourd'hui.
Vous avez des anecdotes sur votre début de boxeur à nous raconter ?
Oui, donc il y a eu des choses qui sont passées par rapport à ma préparation et qui m'ont vachement marqué sur le plan personnel. Par exemple, je prends un exemple. Quand je prépare un combat pendant 2-3 semaines, en amateur bien sûr, parce qu'en professionnel c'est quand même assez calibré. Donc je prépare un combat, tu arrives le jour de la pesée, pas d'adversaire.
Oui, ça doit être surprenant de se dire bon.
Très surprenant. Donc tu t'es préparé. Tu t'es préparé, tu t'es sacrifié et tu arrives le jour de combat, il n'y a pas d'adversaire. Donc c'est vrai que ça reste des choses assez marquantes au niveau...
Même frustrant, ça doit être le mot.
Frustrant et traumatisant parce que tu te dis, je me suis préparé pendant 3 semaines où j'ai mis les gants, j'ai fait mes séances de fractionner au sac, parce qu'au Boxing Club Toulousain, on travaillait beaucoup des fractionnés, beaucoup tout le temps. Et tu te prépares avec les copains, tu fais du sparring, et tu arrives le jour J, on te dit, le boxeur en question n'est pas là, ou il ne veut pas boxer.
Et ça vous est arrivé souvent, ce genre de situation, ou c'est quand même quelque chose d'extrême ?
Non, ça c'est vraiment en cas extrême, mais c'est déjà arrivé, trois fois dans ma carrière amateur. Après, en professionnel, c'est des choses qui n'y arrivent pas.
Mais j'imagine que certains boxeurs, des fois, face à l'adversaire, peuvent prendre peur, soit être terrorisés par l'adversaire.
Mais de toute façon, je pense que tous les boxeurs, personnellement, moi, quand je vais combattre, c'est pas que la peur, mais c'est pas le mot. En fait, c'est pas la peur dans toute sa splendeur. Tu as peur de mal faire les choses, de ne pas y arriver à exécuter les gestes exacts. Mais ce n'est pas la peur de se dire « oui, je vais me faire démonter » ou « je vais me faire tuer », tu vois. Ce n'est pas cette peur-là. C'est une peur de ne pas pouvoir exécuter les...
De ne pas mettre en pratique ce que vous avez fait à l'entraînement et tous les exercices, les techniques que vous avez apprises, que vous avez peaufinées par rapport à l'adversaire, de ne pas réussir à les restituer.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Des événements qui vous ont marqué au niveau de vos combats ? Quelque chose qui vous a galvanisé, qui vous a fait vivre une...
L'Ukraine, 2013. C'était le 16 mai, si je me rappelle. Le 16 mars. Ou le 23 mars. Le 23 mars 2013, en Ukraine. En allant boxer... Donc je m'étais préparé bien comme il faut. Bon, c'était une période de ma vie assez spéciale. Même je peux même dire difficile. J'étais pas le boxeur qui devait boxer. Je devais pas faire ce combat-là. Donc mon ancien entraîneur reçoit une proposition de la WBO pour combattre Uzelkov, non c'est pas Uzelkov, c'est un autre boxeur, je ne me rappelle plus du prénom, mais le nom il viendra, c'est pas Uzelkov c'est en Pologne. On me propose un combat, on saute sur l'occasion parce que c'est pas tellement bon, parce que il faut savoir qu'un boxeur a toute une équipe avec lui qui se déplace avec lui, donc même si sur le ring on est tout seul, mais avant ça quand même il y a un travail d'équipe qui est monumental. Donc, on saute sur l'occasion, on y va. On y va, voilà, là-bas, bon, ben, on fait notre truc. Le mec superstar en Ukraine, voilà, le mec qui a fait Je danse pour les stars, il passe souvent à la télé, tu vois, des... Voilà, donc assez bien médiatisé.
Il est sûr de lui, pour le coup.
Sûr de lui, sûrement. Sûrement, parce que être sûr de soi, c'est... On peut être sûr de soi sur des choses qu'on maîtrise, mais tu ne maîtrises pas l'adversaire. Tu ne le maîtrises pas, donc tu peux
c'est
pas
surprenant à chaque combat, même si c'est le même adversaire qu'on va réaffronter, on va encore découvrir des surprises.
On va découvrir des surprises. On découvre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le jour donc ma préparation, et il y a eu des choses qui m'ont paru assez surprenant, parce qu'il y avait un restaurant où on y allait, donc il y avait Jérôme, mon entraîneur. Serge, le président du club, Vague, mon homme de coin, et aussi c'est mon confident. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment proche de moi. On a commencé la boxe ensemble. Il m'a vu débuter, quoi. Il m'a vu vraiment débuter. On a commencé à débuter au Boxing Club Toulouse ensemble. Mais c'est quelqu'un qui avait quand même une approche assez douce. Assez douce, il sait parler, il sait poser les choses, et c'est pas une personne qui va juger une personne ou qui va voilà, il a vraiment un côté très très doux et vraiment très attention quand il s'approche de quelqu'un, vous voyez,
beaucoup de compassion.
Presque. Non mais c'était pas ça, même je peux dire que il a même
de l'empathie.
Non, c'est pas de l'apprentissage, mais il est tellement minutieux, il a presque peur quand il vient parler à quelqu'un, il lève le doigt, tu vois. Et donc, on mangeait à un restaurant qui était à côté de mon hôtel. Et ce restaurant-là, je sais pas, il y avait un truc dedans. Il y avait un truc. Le décor, c'était un décor avec les couleurs très chaudes. Et les comment on appelle ça, les sets de table, c'était un truc où tu pouvais colorier, tu pouvais dessiner, tout ça et tout. Et donc quand tu rentrais, ils te mettaient un verre avec des crayons, des stylos, tout ça et tout. Et en fait, ben ça se passait, c'était trop bizarre, parce que à chaque fois je suis rentré dans ce restaurant là, ben, c'est comme si j'étais déjà venu dedans. Je suis déjà venu dedans. Et je dessinais.
Déjà vu.
Ouais, ouais, mais c'était impressionnant. Et je demande à Vague, je dis, Vague, mais c'est quoi ce restaurant, en fait? Pourquoi c'est décoré comme ça? Il me dit, c'est repris d'un série qui passe à la télé. Et c'est connu en Ukraine. C'est connu dans le pays de l'Est, en fait, que ce soit l'Ukraine jusqu'en Russie. C'est vachement connu parce que c'est une série, en fait. Hein, c'est l'employé est amoureux de son patron. De sa patronne, plutôt, excusez-moi du mot. De sa patronne. Et c'est une série. Comment je peux dire ça? C'est quelque chose d'attachant. Oui,
oui.
Chose d'attachant. Et même, il y avait des musiques dedans, c'est des musiques kitsch, tu vois. Et je sais pas. Et donc, à chaque fois, bon, on décidait pour aller manger au restaurant, on disait, voilà, on va manger au sushi ou on va manger dans un restaurant ukrainien, parce que beaucoup au pays de l'Est, ils mangent, avant de manger, ils mangent beaucoup de soupe. Donc c'est des soupes, ils mangent de soupe, après de salade, après il y a le plat. Et c'est beaucoup de plats en soupe et du pain.
Et comme moi, je... est bonne, hein, c'est...
Oui, honnêtement. Et comme quand je suis dans la semaine du combat, je fais vachement attention à ce que je mange. Donc je mange soit du riz, juste un peu de riz avec un peu de viande, comme du poulet, ou je mange japonais. Et donc on avait trouvé un restaurant japonais où ce restaurant. Donc, et je sais pas, ben à chaque fois, ben je partais dans ce restaurant et il y avait un truc. Il y avait un truc, il y avait un bien-être, mais je pouvais pas l'expliquer.
Ça a l'air d'être un restaurant agréable. C'est...
Voilà, très agréable. Je ne peux pas l'expliquer. Et donc, revenons à un autre truc. Le jour du combat, le soir du combat, j'étais dans ma chambre. Je descends. Donc, ma chambre, en plus, donnait juste sur ma fenêtre, je voyais le restaurant. Donc, je descends et je rentre dans la voiture qui m'emmenait là où je combattais, aux salles de sport de Kiev. Donc c'était vraiment un super truc, quoi, un truc super. Et là, je suis rentré dans la voiture, je me suis assis, j'ai fermé les yeux, j'étais branché. Je sais pas, j'avais de l'énergie qui rentrait en moi. Je tremblais dans la voiture comme si j'allais... comme si j'étais branché à une prise, donc je recevais de l'énergie.
Donc c'est au-delà de l'excitation et
au-delà de l'excitation. Même jusqu'à présent, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et j'arrive dans le combat et je fais un combat de malade. Un combat de malade. On me donnait pardon. Hein.
Les astres étaient alignés pour vous, quoi, ce jour-là.
Exactement. Exactement.
Tout était bien ancré.
Exactement. Mais c'était un truc de malade. Et tu sais, quand tu as fait quelque chose, tu as fait quelque chose que tu te dis, oui, je l'ai fait. C'était dur, mais je l'ai fait. Cet sentiment d'accomplir quelque chose d'important, ben, je l'ai senti ce moment-là.
C'est le sentiment d'accomplissement.
D'accomplissement, c'est ça.
Ben, de la finalité de votre métier, au final, c'est un peu ça le but.
Ben, disons, oui, parce que la boxe, c'est vrai, il y a le côté où tu vas gagner des ceintures, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner de la notoriété, mais il y a un truc que tu peux pas gagner comme ça, qu'on va pas te donner, c'est ce sentiment d'accomplissement où tu te dis oui, je l'ai fait. Peu importe soit le combat, peu importe le combat. Que ce soit une ceinture ou un combat de reprise ou juste un combat comme ça. Mais cet sentiment de te dire, oui, j'ai eu quelque chose de inexplicable.
Et d'important, surtout.
D'important. Tu vois ? Ben, ça, c'est la chose que je peux dire, c'est la chose la plus marquante de toute ma carrière.
De toute votre carrière.
De
ah, oui.
toute ma carrière. Donc c'est... Je pourrais pas l'expliquer et je pourrais jamais l'expliquer.
Donc nous allons revenir sur votre carrière, mais en attendant nous allons effectuer une pause musicale avec un morceau proposé par Doudou qui se nomme
Suprême. C'est ça ?
De qui ?
Robbie Williams. Today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive?
Believe when there's no love. stack up. Sit back and watch a royalty stack up. I know the girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a love supreme.
Nous sommes de retour avec Doudou Ngumbu. Pourquoi ce morceau? Qu'est-ce qu'il vous inspire?
Ah, ce morceau, c'est...
Il est motivant,
déjà,
en tout cas.
C'est un morceau qui est rempli d'amour. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par l'amour. Je fais tout par amour. Soit j'aime, soit j'aime pas.
C'est le cœur qui vous guide.
Voilà, c'est ça. Et quand j'aime, je fais tout. Quand je n'aime pas, je fais pas. Et c'est un morceau qui me dit que voilà, que tout est possible, il faut juste continuer à y croire et de travailler et tout finit par arriver.
Croire en ses rêves et s'en donner les moyens surtout.
Croire en ses rêves et s'en donner les moyens. Après, les rêves, tous les rêves ne sont pas faits pour être réalisés. Parce qu'il y a des rêves c'est des rêves fous, donc tu peux pas réaliser des rêves de folie. Donc, mais les rêves, des beaux rêves, oui, ça mérite d'être réalisé.
Alors vous parliez de votre carrière de boxeur, mais vous êtes aussi coach.
C'est ça.
Et vous entraînez dans quel club?
J'entraîne. Aujourd'hui, j'ai pas de club encore pour le moment. J'ai pas de salle à moi, j'ai pas de lieu. Mais par contre, j'interviens chez des personnes lambda qui souhaitent apprendre à boxer, à s'affiner ou à prendre du muscle, bien sûr, s'ils ont envie de prendre du muscle. Et aussi pour se libérer la tête et ainsi de suite. Et notamment, j'interviens aussi dans une société qui s'appelle New Rest depuis 3 mois maintenant. J'entraîne les employés à la boxe ou à mincir ou à prendre du muscle. Donc voilà. Bon, apprendre à boxer aussi, bien sûr.
Et vous entraînez quel public en général? C'est des personnes jeunes, âgées?
Il y a de tout. Il y a des jeunes. J'entraîne même des enfants à partir de 6 ans. Mais là, c'est pas à New Rest. Là, c'est à l'extérieur. De tout. Ça commence de 22 jusqu'à 40, 50 ans. Donc, que ce soit des femmes, des hommes. C'est un public assez mélangé que je m'en occupe.
J'imagine qu'en tant que passionné de boxe, vous devez souvent en suivre l'actualité au niveau de la télé, des matchs.
Exactement.
Il y a des personnes que vous suivez régulièrement?
Disons que oui, il y a certains boxeurs que je suis, notamment des boxeurs. Il y a des boxeurs français que je suis, il y a des boxeurs américains, anglais, russes que je suis. Et oui, il y a pas mal de boxeurs tirés du filet que je garde l'œil sur eux.
Vous avez des boxeurs qui vous guident aussi par rapport à certaines de leur expérience, qui vous motivent.
Oui.
Et j'imagine que vous en motivez aussi d'autres. Vous avez déjà eu des retours de personnes qui
vous avez motivé? Souvent, les gens ils m'envoient des messages. C'est bien Doudou, tu es un exemple. Tu me motives de te voir. Rien que quand je cours, des fois je mets des vidéos où je montre mon parcours de course. Il y a des personnes qui m'envoient des messages en me disant c'est très bien Doudou ce que tu fais. Ça m'encourage, ça me permet aussi de me remettre en forme, de te voir t'entraîner, continuer comme ça, tu es une source de motivation.
C'est important pour vous ça d'avoir ce retour quand même. C'est, euh...
Ça encourage.
Ça encourage.
Ça encourage. Fait du bien, c'est pas important parce que la motivation, si la motivation, je me la trouve moi-même au fond de mes tripes, parce que je sais que voilà, il y a des choses que je dois faire. J'ai un combat, je dois m'entraîner pour être au top. Donc la motivation vient de.
Vous êtes la force de votre propre mouvement, c'est.
Ben oui, oui, je suis la force de mon propre mouvement et aussi il y a des choses qui me motivent, notamment mes deux enfants. J'ai deux beaux enfants qui me. À chaque fois que je le regarde, ben, ça me motive. Ça me motive quand j'ai des objectifs, ben, il suffit de penser à eux pour que je sois.
Cet amour vous donne des ailes, quoi, ça.
C'est ça, exactement. Exactement.
Et vos enfants ont quel âge, si c'est pas indiscret ?
Ma fille a 7 ans et mon fils a 3 ans.
Alors, donc, à la fois coach, à la fois papa.
Oui, ça, c'est ça.
Ça en fait, ça en fait des activités.
Ben, disons qu'il faut juste toute une question d'organisation. L'organisation fait beaucoup. Donc, j'arrive assez bien à m'organiser pour pouvoir m'occuper de mes affaires et de m'occuper de mes enfants.
Et vos enfants n'ont pas peur de vous voir sur le ring comme ça ?
Ben, disons que ma fille, je. Je pense pas que ma fille, elle aura le courage de regarder. Mais après, c'est mon métier. Hein.
Oui.
C'est mon métier. Je sais ce que je fais quand je monte sur un ring. Je sais que je me prépare avant. Je me prépare avant, je fais des sacrifices. J'endure des moments difficiles pour que le jour J, je sois au top. Après, on n'est jamais à l'abri d'un coup qui arrive par hasard ou... Mais je fais en sorte de limiter les casses, même si le risque zéro n'existe pas. Bon, peut-être un jour elle sera. Je pense pas qu'elle me verra. Elle me verra sur un ring parce que je suis plus vers la fin que vers le début. Et pourquoi pas un jour, avant mon dernier combat, elle viendra me voir ou mon fils.
Pourquoi pas. Pourquoi mais pas. Vous avez déjà des titres.
Oui, j'ai gagné quelques titres.
Et vous êtes encore possesseur de titres.
Actuellement, je détiens la ceinture WBC francophone.
Donc c'est un titre important ?
Oui, tous les titres sont importants. Tous les titres sont importants. Et je voulais toucher un mot par rapport à ça. Parce que dans le milieu de la boxe, il y a des personnes qui dénigrent ces genres de titres. WBC international, WBC silver, WBC francophone, WBO intercontinental. Mais... si tu passes pas par là, tu n'obtiendras pas ces ceintures. Donc, tout boxeur est obligé de passer par là. Et pour moi, je trouve que c'est la plus importante de trophée de ma carrière. C'est mon premier coupe. C'est ma première coupe que j'ai gagnée quand j'ai gagné mon premier combat. C'est ça le plus important. C'est pas quand tu arrives en haut. Parce qu'en haut, il faut y rester en haut.
Il faut c'est y rester. Dur, ça, de...
Ah ouais, c'est très dur d'y rester. Il faut y rester. Et même quand tu arrives en haut, ben, le travail que tu as fait en bas, est-ce que elle vaut le travail que tu as fait en haut ? Tout commence par un rêve. Je commence par un tout petit rêve. Une toute petite coupe de rien du tout. Et pour t'emmener à.
Ça vous a amené loin.
Suprême. Ouais. Mais donc, pour moi, les gens qui critiquent les ceintures comme WBC international, WBC francophone, c'est des gens en fait qui n'ont rien compris au sport et qui ne respectent pas le sport en elle-même, qui ne respectent pas la boxe.
C'est une phrase pleine de sagesse parce que j'ai vu que dans votre catégorie de poids, sauf erreur de ma part, vous êtes premier français.
Oui.
Et vous êtes 32e mondial.
C'est ça.
Donc c'est quand même un sacré palmarès. Il y a peu de personnes en France dans
après,
cette catégorie de poids qui vous arrivent à la cheville.
Le plus important, je peux dire. C'est pas d'être le premier ou le deuxième ou le dixième. Le plus important, c'est être bon dans ce que tu fais. Après, quand t'es bon, on te classe dans des cases, on te dit voilà, t'es le premier, t'es le champion, tout ça. Mais non, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est d'arriver à exécuter le geste parfait. Et le geste parfait, ben jusqu'à présent, personne ne l'a fait. Et moi, je regarde la boxe, je vois des boxeurs boxer, je vois plein d'irrégularités.
Et quels sont les matchs les plus mémorables que vous ayez eu la chance de voir en tant qu'observateur ?
Les matchs que j'ai eu la chance de
voir en tant
qu'observateur.
Vu qu'il n'y a pas eu de geste parfait, il y a quand même des matchs qui s'en rapprochent, enfin que vous aviez. qui vous ont transcendé, non ?
Non, non. Non, il y a des matchs qui te marquent. Il y a des matchs qui te marquent que j'ai vus à la télé. Par exemple, il y a un boxeur vénézuélien qui est décédé. Bon, hommage à lui. C'est dommage pour sa vie, pour sa famille et pour les victimes qu'il a causées. C'était Edwin Valero, un boxeur de... Il sortait d'un autre monde. Donc c'était un mec avec une voix, mais une voix de fille. Quand il parlait, ben, limite, il avait envie de se dire, mais attends, t'es en train de faire exprès. Mais il avait une boxe de malade. Et il a fini sa carrière avec 29 combats, 29 par victoire par KO.
C'est impressionnant.
Ça veut dire que tous les boxeurs de sa catégorie, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Marquez, avaient peur de le rencontrer. Et si il aurait resté vivant, ben...
Il
sera encore au top. Mais bon, on dirait que les grandes carrières comme ça, souvent, il y a toujours un truc... Il y a toujours un truc bizarre qui arrive. Il y a toujours une drame qui arrive...
En parlant de drame, d'ailleurs, ça ne vous fait pas peur parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui sont atteints à l'âge de la retraite, par exemple par rapport au choc de maladie d'Alzheimer ou de.
Ouais, c'est sûr que oui, j'aurai des soucis au niveau des articulations parce que voilà, quand tu fais un sport traumatisant, c'est sûr que tu auras des problèmes. J'aurai des problèmes, c'est sûr. Mais après, bon, c'est le métier que j'ai choisi, donc maintenant je. Je demande à l'univers de m'épargner de tout ça.
Et beaucoup ne pensent pas à la reconversion, c'est-à-dire qu'après la boxe, ils ne savent plus trop quoi faire. Vous avez un projet de...
Moi, j'ai beaucoup de projets. Je suis quelqu'un qui est rempli de projets. Je suis rempli de projets. Après, c'est les moyens et qui fait en sorte qu'on arrive à concrétiser les projets. Il y a des projets qui n'ont pas besoin de moyens, mais il y a des projets qui ont besoin de moyens. Mais moi, pour ma reconversion, c'est sûr que je souhaiterais monter un club de boxe.
Pour transmettre justement toutes
les valeurs. Pour transmettre mon savoir.
Et du coup, le coaching, c'est une partie de votre reconversion.
Exactement.
C'est au-delà de la reconversion professionnelle, c'est aussi beaucoup de choses. Vous allez transmettre des valeurs.
C'est ça.
Enfin, votre goût pour l'effort,
pour l'effort, pour le dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est ça.
On dit notamment que le sport aide beaucoup de gens, genre les jeunes qui, par exemple, ont des difficultés à s'insérer ou à ce qui paraît, le sport, en règle générale, fait du bien aux jeunes. Ça leur donne un cadre, ça leur donne des moyens de s'exprimer.
Le sport fait du bien aux jeunes, mais du moment donné, une personne, dans sa tête, réfléchit à être structuré, à se dire voilà, ben, parce que tout le monde, on est égaux, on est nés tous égaux, mais la vie, elle n'est pas égale pour tout le monde. On débute avec des difficultés dans la vie. C'est en fait, je pense que c'est une programmation que tu as eue depuis tout petit qui fait en sorte que tu te structures. Tu vois ? Oui. Tu te structures, tu te dis, ben voilà, ben moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça, je suis dans un truc. Maintenant, je veux me structurer. Je veux arriver à être là.
Donc le sport, ça répare et ça construit même.
Le sport répare, bien sûr, certes, mais il n'y a pas que le sport. Il y a des jeunes qui vont retrouver refuge dans la lecture, par exemple.
Oui.
Dans la lecture. Ou d'autres, ils vont retrouver refuge dans le cinéma. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est une programmation. Moi, je pense que j'étais programmé pour faire du sport. Parce que depuis tout petit, je faisais du sport. Je courais, je me réveillais le matin, des fois à 6 heures, pour aller cavaler. Et quand j'avais 6 ans, je courais avec l'équipe du Congo, l'équipe nationale. Je partais à leur entraînement et je les suivais. J'avais 6 ans. Imaginez-vous quand même.
C'est impressionnant.
Ouais. Donc, après, je pense que c'est une programmation qu'on a dès tout. Je pense que dès sa naissance, ou même, je peux partir encore plus loin, c'est l'ADN de guerrier que j'ai qui fait que voilà, que je reconnais tout ça. Je reconnais tous ces efforts-là et que mon corps reconnaît ça et il veut encore plus.
Donc vous dites, vous dites ADN de guerrier, ça veut dire que la combativité, vous l'aviez depuis l'enfance.
C'est quelque chose qui vous était toujours habité. Un truc que je l'ai toujours, depuis tout petit, j'ai eu ça.
Bon, la carrière d'un boxeur, vous pensez que c'est fragile ou
Très fragile.
Très fragile.
La carrière d'un boxeur, déjà, Jérôme Rey, mon ancien entraîneur, m'a appris une boxe où je prends pratiquement pas de coups. On a une boxe où on peut avoir les mains basses, mais on se défend vite. On se défend et on se déplace vite.
Vous êtes agile, vous êtes rapide.
Voilà, exactement, exactement. Et donc déjà, le fait de moins prendre des coups, ça te prolonge la carrière.
Et pourtant, vous avez pas mal de victoires par KO. Donc du coup, c'est que vous avez quand même de la rapidité, mais vous avez aussi de la puissance pour permettre d'avoir ce genre de résultats.
Oui. Mais c'est aussi la défense. Qu'est-ce que tu... Après aussi, c'est le sérieux qui fait aussi en sorte... Je me drogue pas. Je me dope pas.
C'est possible de rester un boxeur naturel comme vous et de gagner contre un boxeur dopé ?
C'est possible. Ah ouais, c'est possible. Mais en fait, moi, je pars du principe que tout est possible du moment où tu te dis, ben voilà.
L'esprit n'a pas de dope, en fait. Ça va au-delà de...
La volonté. La volonté dépasse tout. Dès que tu te dis, je peux battre, je peux arriver, c'est bon. Tu sais, il y a combien de temps ? Il y a 3 semaines. Je vous parlais un peu de ma fille. Donc, ma fille, elle ne savait pas faire du vélo. Là, je la prends, je commence à lui apprendre à faire du vélo. Donc, je fais monter sur la selle, je mets les gants, je mets le casque, tout ça, je mets les genouillères, je commence à lui dire, allez Louane, pédale. Elle commence à pédaler et je lâche le vélo, elle tombe. Elle s'est mise à pleurer. Je fais, Louane, tu sais, il y aura d'autres choses plus difficiles que ça dans la vie qui te fera pleurer. Si tu abandonnes maintenant, ben t'abandonneras sur beaucoup de choses.
Effectivement, c'est pour lui faire comprendre qu'il faut pas abandonner. On abandonne une fois, on abandonne toujours.
T'abandonneras sur beaucoup de choses. Il y aura d'autres choses plus importantes qui te feront beaucoup plus mal que ça. Elle se lève, elle prend son vélo, elle me regarde, elle me dit, je vais arriver, papa.
La volonté.
Voilà, c'est ça. Et elle est montée sur le vélo et ça y est, elle a commencé à faire du vélo.
Comme quoi il suffisait.
Quand elle m'a dit ça, c'était fini. Je me suis dit, ça y est, elle est arrivée. Je vais arriver, papa. Ces mots sonnent tellement fort dans ma tête, ça sonnera toujours fort dans ma tête.
Vous lui avez trouvé les bons mots. Vous lui avez parlé avec le cœur.
C'est ça. Parler avec le cœur et faire les choses avec son propre. Comment je peux dire ça ? Ouais, c'est ça. Avec le cœur. Avec les mots qui sonnent comme un enfant. Parce qu'il n'y a rien de plus pur. Les mots d'un enfant. Et quand ma fille m'a dit, je vais arriver, papa, en se levant, en essuyant ses larmes, ça y est, je me suis dit, ça y est, elle est arrivée. Et là, ben, elle est montée sur le vélo, j'ai tenu, j'ai lâché, elle a commencé à faire du vélo. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à faire du vélo.
Donc vous avez permis un apprentissage rapide par des mots simples.
En 20 minutes, elle a su faire du vélo. En 20 minutes, hein.
Et vous parliez de l'enfance et des premiers pas, ça me fait penser à des événements qui m'ont marqué et qui m'ont motivé jeune. C'est par exemple les films Rocky. Alors sur la boxe, voilà, j'étais un grand fan aussi. Petit. Et voilà, donc je me suis toujours dit, mais c'est ça la boxe, c'est génial. Je n'en ai jamais vraiment fait en club, mais bon, c'est vrai que ça donnait beaucoup d'envie, autant à des amis. C'est quelque chose de galvanisant de voir ces films, en fait.
C'est ça.
Et d'ailleurs, ça me fait penser un peu à votre parcours. C'est pour ça que j'ai choisi un morceau qui s'appelle Gonna Fly Now de la BO du film Rocky.
D'accord. We'll be right back.
vous êtes toujours sur Oxyform avec notre invité Doudou Ngoumbou. Alors Doudou, vous avez un vécu associatif, vous soutenez des causes ?
Je soutiens un maillot pour la vie. Effectivement, je suis invité à une manifestation de football. On est invité pour le 5 avril. Le 5 avril, je dois participer à une journée football pour les enfants malades.
Bon, mais c'est très bien ça. Ouais. Vous avez des partenariats aussi ?
Partenariat avec
en tant que boxeur ou en tant qu'entraîneur ?
Non, pas du tout. Je participe tout simplement à des événements avec des enfants sous forme de jeux. Et des fois, y a des matchs. Y a des matchs de foot, des matchs de rencontres de golf aussi. Pour les enfants, en fait, ceux qui gagnent, il y a des fonds qui sont versés dans l'association pour les enfants. Voilà.
Vous pratiquez d'autres activités que la boxe ?
Oui.
Lesquelles ?
J'aime beaucoup le golf.
C'est étrange, le golf ?
J'aime beaucoup le golf. Déjà, d'être dans ces espaces-là où tout est vert, c'est très calme, ça me détend. Ça me détend et je travaille aussi une autre forme d'approche de sport et je trouve que ça me détend et je trouve...
C'est moins intense que la boxe.
C'est moins intense, mais c'est fatigant quand même.
Ah bon ?
Ah ouais, c'est très fatigant.
Vous marchez beaucoup sur un...
Disons, rien que de swinguer, ça fatigue au bout d'un moment, de frapper à la balle, ça...
Donc vous pratiquez de la boxe, de la course à pied,
de la course à pied,
du golf. Et vous avez d'autres activités sportives ?
L'équitation aussi. J'ai fait d'équitation.
Vous en faites toujours à vos heures perdues ou...
Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Je n'en ai pas fait, mais je pense que je vais m'y remettre avec mes gamins bientôt.
Alors tout à l'heure, vous m'avez parlé de votre équipe. Vous m'aviez dit qu'elle était importante et que quand vous boxez, vous n'êtes pas seul. Oui. De quoi se compose l'équipe et l'entourage d'un boxeur ?
L'entourage d'un boxeur se compose déjà de son entraîneur, l'homme phare de tout, parce que c'est lui qui est là avec toi, qui te connaît, qui sait si tu es à fond, si tu triches ou si tu
c'est lui qui fait les réglages, c'est comme de la mécanique.
Voilà, y a le préparateur physique qui te prépare à être au top. Après, il y a tout. Il y a la famille qui est à côté. Il y a les personnes qui s'occupent de toi. Il y a tout ce qui est côté communication et ainsi de suite. Il y a tout ce monde-là qui fait que tu es dans les bonnes conditions. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire toi. Donc, tu es obligé de léguer. Donc, tu lègues et donc c'est fait pour ça, c'est fait pour aussi que tu puisses être tranquille, penser que à ton combat.
Et avec toute cette équipe, vous avez souvent des entraînements, vous entraînez tous les jours ?
Avec l'équipe, il y a pas tout le monde hein. Dans l'équipe, il y a pas tout le monde dans l'équipe par exemple, il y a pas Eric à tous les entraînements bien sûr. Aux entraînements, souvent les entraînements, je suis qu'avec l'entraîneur ou avec le préparateur physique ou l'entraîneur et le préparateur physique.
Et en tant que boxeur, vous et même d'autres boxeurs, c'est un entraînement quotidien, tous les jours ? Tous les jours une remise en question ?
Tous les jours.
Et entre les matchs ou même en règle générale, comment se passe la récupération d'un boxeur vous ?
La récupération d'un boxeur, pour moi, quand je fais un combat, un 12 rounds plein, je déconnecte complet. Il faut déconnecter. Mais le problème chez nous les boxeurs, quand on déconnecte complet, on prend du poids.
Et ça, c'est pas bon.
C'est pas bon. Il faut en prendre, mais pas trop.
Et justement, pour le régime d'un boxeur, il est différent avant une compétition que tous les jours ?
C'est ça.
Tous les jours, il faut faire attention quand même.
Il faut faire attention tous les jours, mais quand tu prépares un combat, ça devient encore beaucoup plus drastique.
Et depuis quel âge vous pratiquez la boxe ? Je vous avais pas demandé, mais...
La première fois, j'ai mis les gants vraiment en boxe, quand j'ai commencé à faire de la boxe. C'est aux alentours quand j'ai eu 7-8 ans. C'est au Congo. Je partais voir des combats de boxe, tout ça et tout. Mais je faisais les entraînements, mais je faisais pas. je faisais pas les combats. J'avais un sac quand même. J'avais un sac dans la maison de là où ma mère elle habitait. Il y avait un mec là, un champion, un ancien champion. En fait, c'est lui en plus qui m'a emmené à la boxe en tout premier. Et donc, il avait accroché un sac. Et des fois, je tapais sur le sac, des fois. Ouais. Et après, bon, je continuais le football, je faisais un peu de lutte, un peu de karaté, un peu de judo. Et quand j'ai vraiment commencé à faire de la boxe, c'est quand j'ai eu 18 ans.
Donc c'est quelque chose qui remonte à loin quand même. C'est...
Oui, ça remonte à loin.
Et vous courez beaucoup, vous faites des marathons?
Je cours assez souvent. J'ai fait un marathon il y a 6 ans en arrière.
Alors du coup, cette équipe qui vous entoure, elle est composée de qui?
Ben donc dans l'équipe, il y a Jean-Marc Ismaël qui est mon entraîneur. Ensuite, il y a Junior Serège qui est mon préparateur physique. Ensuite, il y a tout le côté, tout ce qui est administratif, paperasse, tout ça. Donc, il y a Eric Dorego qui est chargé de mettre en relation avec les personnes extérieures, que ce soit la mairie ou les sponsors. Il y a Lauriane Dorval qui s'occupe de la planification de la communication et de tout ce qui suit. Et ensuite, moi, les personnes vraiment qui me suivent par rapport au sport, par rapport au domaine sportif purement dur, boxe, c'est Jean-Marc Ismaël. Et sur le côté préparation physique, c'est Junior Serège. Donc, on est en train de préparer le combat pour le 25 mai au Petit Palais des Sports pour la défense de la ceinture.
Parfait. Nous espérons que vous allez la conserver. Ensuite, vous courez beaucoup, vous avez fait des marathons, des longues distances?
Oui, j'ai fait un marathon il y a 6 ans en arrière. Après un combat, j'ai fait un marathon. Bon, ben, c'était vraiment pour
le challenge.
Pour le challenge. Après, je cours beaucoup.
Tous les jours?
Ça dépend des périodes. Des fois, je peux courir tous les jours, un jour sur deux, ou deux fois par semaine, ainsi de suite, ça dépend, c'est vraiment ça dépend, c'est aléatoire.
Et maintenant, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, nous allons parler de lecture. Oui. Nous passons à la séquence littéraire.
La minute littéraire d'Oxyform.
Alors pour le choix littéraire de l'invité, vous avez choisi ?
La vérité, rien que la vérité.
Donc c'est la biographie de Mike Tyson ?
C'est ça.
Alors pourquoi ?
Bah parce que c'est un livre où je me suis un peu vu dedans. Sur certains passages, pas tout. Hein. Je me suis vu dedans. Pendant les moments difficiles, tout ça. Les bonnes personnes qui étaient là au bon moment et les mauvaises personnes qui étaient là aussi au bon moment.
Bon, Mike Tyson, personnellement, je trouve que c'est quand même quelqu'un de triste, alors que vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux, on va dire. Mais vous vous retrouvez dans certains aspects de sa personnalité.
Oui, parce que c'est un boxeur, c'est un grand boxeur, Mike Tyson, c'est quelqu'un d'attendrissant.
Ben même beaucoup le disaient de lui que c'était un génie, jeune.
Un génie, non, je pense pas que c'est un génie. Un génie, non. Ce n'est pas un génie. C'est quelqu'un qui a...
Qui avait une force de travail, en tout cas.
Voilà, force de travail. Il est arrivé là où il est. Les génies, on peut parler de Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est un génie.
Et pourquoi c'est...
Ben, parce que Mohamed Ali, il avait une manière de boxer à cette époque-là. C'était très difficile de boxer comme ça. Marcel Cerdan, c'était un génie. Sugar Ray Robinson, c'était un génie. Ces mecs-là, c'est des génies. Parce qu'ils ont une approche de boxe qui est comme maintenant. Ils boxent comme nous maintenant.
Donc c'était unique pour l'époque et c'était du jamais
vu. Unique pour l'époque. Ils avaient déjà 50 ans d'avance. 50, 60 ans d'avance, même plus. 70 ans. 70 ans. C'est énorme. Ça, c'est des génies.
C'est des précurseurs.
Voilà, exactement.
Alors pour mon conseil de lecture, J'ai choisi Le pouvoir de la volonté de Paul Clément Jagot. Donc, c'est un livre de développement personnel qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il est facile à lire. Il est facile à emporter, c'est un livre de poche. Et le deuxième, c'est qu'il peut apporter des clés et une motivation pour travailler sur son esprit et renforcer sa volonté. Donc, je trouve que c'est un livre vraiment important pour tout le monde, que ce soit un boxeur, un sportif, quelqu'un de sédentaire. Il apporte des clés pour se sentir mieux dans sa tête, dans sa vie. Et voilà, donc c'est un livre que je conseille à tout le monde.
Pouvoir de la volonté.
On va maintenant parler courses à pied.
Les courses à venir dans la région.
Alors, nous avons pour commencer le Trail des Citadelles, ce dimanche 1er avril 2018. Et non, ce n'est pas un canular. Nous vous proposons bien un trail de 20, 40 ou de 70 km à Lavelanet en Ariège. Ensuite, nous avons les Foulées Terre d'Envol, le dimanche 7 avril 2018 à Colomiers, qui propose une course de 10 km ou un semi-marathon. C'est une course FFA, donc officielle. Le Trail du Val, pour terminer, également ce dimanche 7 avril 2018, donc là, il faudra faire un choix. C'est un trail de 14 km en solo ou en relais, donc 6 km plus 8 km. Ce trail aura lieu à Villefranche-de-Lauragais.
Oxyform.
Oxyform. Nous remercions Doudou Ngumbu.
Merci beaucoup à vous aussi, Romain, de m'avoir invité.
Merci également et à la prochaine.
À bientôt. Et n'oubliez pas que j'ai le combat le 25 mai à Toulouse, au Petit Palais des Sports, pour la défense de la ceinture. Donc vous êtes aussi invités à venir assister à mon combat.
Nous motivons les auditeurs à venir nombreux voir votre combat armé.
Merci. Et je tiens aussi à remercier tous mes sponsors qui me suivent de près ou de loin. Pour cette aventure. Voilà, merci beaucoup.
Vous étiez sur Oxyform, une émission de Romain Galtier. Nous remercions Jean-Louis Zac à la technique. La semaine prochaine, nous recevrons un professeur de jujitsu japonais qui est également coach et passionné de bien-être. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Oxyform ou Esprit Occitanie, ainsi que sur le site de la station ou sur www.oxyfit.fr. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine.